Vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit dimanche passé, arrêter de penser de manière nocive simplement en essayant plus fort de le faire. Vous ne pouvez pas empêcher des pensées de colère, d'amertume, de violence, de tristesse d'apparaître et de camper dans votre esprit simplement en vous disant « je ne veux pas avoir de telles pensées », même si c'est déjà bien de se faire cette réflexion, bien entendu. Par contre, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez fixer votre esprit sur autre chose que vos pensées. Comme le disait Martin Luther, qui était un homme très imaginatif en termes d'image, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dessus. Pensez, ça vient. On ne peut quasi rien y faire. Mais à côté de ça, nous sommes responsables de ce que nous faisons de ces pensées qui nous envahissent. En fait, nous l'ignorons la plupart du temps, et peut-être que quelque part inconsciemment ça nous arrange, mais la capacité la plus basique, capacité mentale j'entends, la plus basique que nous possédons sur notre esprit est celle de choisir sur quoi nous allons porter notre attention. Cette capacité-là, nous l'avons. C'est pour ça que nous sommes responsables devant Dieu de la façon dont nous pensons. À n'importe quel moment, même celui où je parle, maintenant, vous pouvez diriger vos pensées dans n'importe quelle direction. Vous pouvez écouter ce que je suis en train de dire, vous avez intérêt. Vous pouvez penser à ce que vous allez faire cet après-midi, au rendez-vous que vous avez demain, au verre que vous allez boire un pot cet après-midi. Vous avez la capacité de diriger vos pensées sur ce que vous voulez. Donc, ça signifie un truc positif, c'est que nous sommes capables de fixer notre esprit. Si, si. Le roi David, dans le psaume 37, il dit un peu sensiblement la même chose à d'autres endroits. Verset 4 dit exactement ce que je suis en train de dire. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Petite parenthèse ici quand même explicative. La plupart des chrétiens, quand ils lisent ce texte, ils se disent « Super, Dieu veut me donner ce que mon cœur désire. » Ce n'est pas ce que dit David. Il dit « Focalisez votre attention sur Dieu. Apprenez qui il est. Rapprochez-vous de lui. » Faites-en l'objet de vos pensées et il vous donnera ce que votre cœur désire. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que désirera votre cœur ? Dieu. Et si vous voulez demander à Dieu, je te veux, toi, ça, il va faire. Donc, si c'est ton Dieu que ton cœur désire, s'il fait l'objet de tes pensées, ben, Dieu se donnera à ton cœur. Tu auras donc, dans ce cas-là, ce que désire ton cœur. Alors, c'est pas très novateur, mais rappelez-vous, quasi 1000 ans plus tard, Jésus va dire la même chose, d'une manière sensiblement différente. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ce qui explique que deux personnes placées dans les mêmes circonstances peuvent vivre une expérience totalement différente. Ils vont le vivre différemment, parce qu'ils la pensent différemment. Un proverbe bouddhiste, on est dans le bouddhisme aujourd'hui, le dit très bien. L'homme amoureux voit sa femme comme le moyen d'être heureux. Le moine voit la femme comme une mauvaise idée. Le loup voit la femme comme un bon repas. Mais la circonstance est la même. Alors si vous êtes un loup, je ne veux pas le savoir, bien entendu. On peut aussi peut-être essayer de le rendre de manière encore un petit peu plus humoristique, même si ça n'a rien de drôle quand on y réfléchit vraiment. Imaginez la journée d'un chien. On est tombé sur le journal intime d'un chien où il tenait ses pensées. 8h du matin, c'est l'heure où il prend son déjeuner. « Je prends mon petit déjeuner », écrit-il. « C'est le pied, c'est vraiment ce que je préfère, le petit déjeuner. » 9h30, mon maître m'a emmené faire un petit tour en voiture. « La voiture, c'est vraiment ce que je préfère. » 9h40, une promenade dans le parc. « Franchement, c'est ce que je préfère. » 10h30, je passe au toilettage. « C'est ce que je préfère. » Midi, le dîner, c'est ce que je préfère. 13h, je joue dans le jardin avec le gamin du maître, c'est ce que je préfère. 15h, oh, une friandise en forme d'os, c'est ce que je préfère. 17h, je joue à la balle, c'est ce que je préfère. 19h, je regarde la télé avec le reste de la famille, c'est vraiment ce que je préfère. 11h, je m'endors sur le lit du maître, c'est ce que je préfère. Ça, c'est la journée du chien. Maintenant, imaginez la journée du chat. On a aussi retrouvé son carnet personnel. Moi, je vous cite ce qu'il marque dedans. Le chat, moi, je ne 983e jour de captivité. Mes ravisseurs continuent de me tourner en ridicule en agitant devant moi de petits objets étranges. La seule chose qui me permet de tenir, c'est mon rêve de me réveiller un jour. Mais ce sont les mêmes circonstances pour les deux. Donc deux créatures, des circonstances identiques, mais deux expériences totalement différentes. Mais quelle est la différence? Où se situe-t-elle? Ben, vous l'aurez compris, simplement dans notre façon de penser. C'est tout. Tandis que quand je dis que c'est tout, c'est beaucoup, vous me direz, mais c'est tout. La gratitude, pour citer d'autres, hein, par exemple, est une façon de penser. La négativité en est une autre. John Milton, le poète anglais bien connu, du 18e, écrit dans son poème « Le paradis perdu » « L'esprit est un lieu à part entière qui peut en lui-même faire du paradis un enfer ou de l'enfer un paradis. » Il y a des gens qui se trouvaient dans les camps de concentration et quand vous voyez ce qu'ils lisaient, ce qu'ils écrivaient, vous vous dites « c'est pas possible, hein, c'est invraisemblable de vivre ça dans un tel lieu, dans un tel enfer. » Et puis vous avez d'autres personnes, vous les placez même dans des situations super géniales, entourées d'amis, ils ont pas de problème particulier. C'est dur pour l'instant. Quoi. Voilà. Je pense que Milton a raison. Donc régler votre esprit, qui est votre responsabilité, c'est comme régler un thermostat dans une pièce. C'est poser un objectif climatique pour la pièce. Ça aura des conséquences. Une fois que vous avez réglé le thermostat, vous savez ça aussi bien que moi, hein, la chaudière va devoir s'adapter au temps qu'il fait. C'est un processus constant, mais l'objectif de ce système est tout simplement de créer un environnement de vie agréable. C'est exactement la même chose avec notre esprit. De nombreuses personnes essayent de se dire d'arrêter d'avoir des pensées négatives, ce qui les amène invariablement à avoir immédiatement les pensées qu'elles sont supposées ne plus avoir. Parce qu'en pensant ça, elles se sont focalisées sur quoi ? Sur leurs pensées négatives. Je ne veux plus penser ça. Et je viens juste d'y penser. Il y a un meilleur moyen. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la spéléologie. Moi pas. Je l'ai tant de mon dos, il vaut peut-être mieux. J'ai connu quelqu'un, quand je travaillais dans le pharmaceutique, qui faisait de la spéléo. En tout cas, qui a commencé à faire des initiations en spéléo. Cette femme m'a dit que lors de sa première descente dans le ventre de la Terre, elle avait emprunté un goulot de ce type, très étroit. Elle était son moniteur, donc le guide lui avait dit de rentrer dans ce goulot sur le dos. Le guide l'avait précédée dans le goulot et elle m'a expliqué que le goulot se rétrécissait de plus en plus. Au début, c'était déjà pas très grand et au fur et à mesure qu'elle progressait, ça devenait de plus en plus étroit. Elle devait s'arrêter de respirer si elle voulait continuer à avancer, car lorsqu'elle respirait, sa poitrine touchait le haut du conduit et ça bloquait sa progression. Elle ne pouvait forcément plus faire demi-tour. Et elle a commencé à se dire que si le goulot se rétrécissait encore, elle risquait de mourir là, dans le noir de cette grotte. Cette femme était une sportive habituée aux montées d'adrénaline. Pourtant, elle a commencé à paniquer. En fait, elle était tout simplement terrifiée. Elle essaya de se calmer, de combattre cette peur, mais les pensées et les images de son corps sans vie coincé dans ce conduit n'arrêtaient pas d'envahir son esprit. Ça n'arrêtait pas d'arriver dans sa tête. C'est alors qu'elle s'est adressée au guide et lui a dit que cela n'allait pas du tout. Elle s'est adressée à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Et le guide lui a dit « Ferme les yeux, focalise-toi, concentre-toi sur ma voix, je vais continuer à parler calmement et te guider hors de cet endroit et tout ira très bien. Je suis déjà passé par là auparavant, mais tu dois écouter ma voix. Ça t'aidera à ne pas laisser tes pensées t'envahir, concentre-toi sur ma voix. » Elle est sortie du goulot, hein, je vous rassure. Je suppose qu'aujourd'hui, elle va très bien. Mais à mon avis, elle a laissé tomber la spéléo. Enfin, en tout cas, c'est possible. Donc, c'est ce que cette femme a fait. Elle s'est concentrée sur la voix du guide. Et ce qui l'a libérée de la panique et de la peur, ce n'est pas d'essayer de se débarrasser de ses pensées effrayantes, elle n'y arrivait pas, c'est d'avoir écouté une autre voix que la sienne. C'est ce que dit Paul. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, donc vers Dieu, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Si je veux être plus précis, vos circonstances. Nous savons tous que dans la vie, tout ne va pas toujours très bien. Si vous focalisez sur ce qui va mal, et uniquement sur ce qui va mal, ça va aller encore plus mal. même si la situation ne bouge pas spécialement, n'évolue pas spécialement négativement, hein, vous allez rajouter de la négativité. Une petite pensée qui me vient, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Indestructibles, le dessin animé, le 1. Vous vous rappelez pas? Enfin, même si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, je vous explique. Maman, je passe les détails. La maman, qui est une super-héroïne, est avec ses deux enfants qui ont aussi des pouvoirs un peu spéciaux. Il y a un missile qui frappe leur avion, donc ils font une chute de plusieurs kilomètres, mais la maman amortit leur chute. Ils sont dans l'océan, à trois. Et le petit garçon, il a « On est mort, on est mort, on est vivant, mais on est mort !» Enfin, ça n'est pas drôle comme je le dis, mais quand vous voyez l'image, c'est vraiment très drôle. Et la maman a dit, maintenant ça suffit, tu arrêtes de dire ça, ou je te punis, je te prive de dessert toute la semaine. Ouais, une autre voix que la sienne. La situation était la même pour les trois. La maman a rationalisé, le gosse, il a commencé à paniquer. Si elle laisse paniquer le gosse, c'est une catastrophe. Et il meurt noyé, ça c'est sûr. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, et j'aimerais vous dire que c'est une fois de temps en temps, mais c'est quasi à chaque moment de la journée, quelle voix écoutez-vous quand vous êtes dans le noir de vos pensées? Quand le plafond semble se rapprocher de plus en plus de vous et que vous êtes quasi certain ou quasi vraiment certain de ne pas pouvoir faire demi-tour, quelle voix écoutez-vous? Parce que la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu a le profond désir de couler à profusion dans notre esprit à chaque moment, même les pires moments. C'est la raison pour laquelle, depuis des milliers d'années, des hommes et des femmes ont cru bon de mémoriser des parties de l'Écriture. Encore une fois, ce n'est pas pour faire joli, ni pour se rendre intelligent ou important et dire, pouvoir répondre à toutes les questions théologiques qu'on peut poser, mais c'est parce que ces pensées focalisées sur la parole de Dieu leur permettaient d'arrêter de paniquer, de recentrer leur attention sur Dieu quand ils avaient l'impression que leur vie ressemblait à une cave et qu'ils étaient dans le noir. Donc quand nous apprenons à faire ça, nous réglons notre esprit sur des pensées qui portent la vie, qui sont porteuses de vie, et qui nous équipent pour vivre notre vie, y compris les moments les plus compliqués et les plus difficiles de celle-ci. En réfléchissant à ça, il y a un exemple, vous connaissez, hein, il y a un épisode, on lit ça avec beaucoup de détachement parce que ça concerne Jésus. On se dit, bon, ben, Jésus, il était quand même Dieu, donc lui, il est pas, on ne peut pas comparer. Ah ben non, si ce n'est, rappelez-vous l'élastique, il a été tenté au-delà de tout, mais l'élastique ne cassant jamais. Donc il y a eu des pressions en termes même d'angoisse, etc., que nous ne connaîtrons jamais, parce qu'on casse avant. Donc imaginez un seul instant la pression, et dans ce cas-ci, d'après le texte de l'Évangile, démoniaque exercée sur Jésus lors des tentations dans le désert. Alors je sais qu'on sait ça, mais c'est quand même intéressant de redire que c'est par la parole de Dieu qu'il est sorti de ses pressions. On lit ça avec beaucoup, encore une fois, on lit ça dans l'Évangile, et puis voilà. Hein. Ah, j'ai fait ma lecture biblique, je remercie Seigneur, à demain. Si on réfléchit, comment est-ce qu'il a dû ressentir ça? Ça n'était pas une sinécure, mes amis. Aucun d'entre nous n'a été tenté par le diable en personne. Hein. Vous ne pouvez même pas imaginer la puissance de feu de ce machin-là. Hein. On va prendre ce texte. Donc, une énorme pression dans un moment de fragilité pour Jésus. Le texte est clair. Jésus répond, en finalité, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus ne le contre même pas par sa propre autorité. Il le contre par la parole de celui qui l'a envoyé. Si on prend cette phrase à sa base, vraiment élémentaire, Jésus nous dit « la vie ne consiste pas, elle ne peut pas consister à s'alimenter afin de rester en vie, afin de ne pas mourir, ça n'est pas la vie selon Dieu. » La vie, ce sont surtout et avant tout des pensées et des émotions qui vont faire de nous la personne que nous sommes et qui vont, de ce fait même, constituer nos relations et l'impact que nous aurons sur les autres. Il y a des rencontres, des soirées, peu importe, entre amis ou pas, il y a parfois des gens qui rentrent dans la pièce et les autres se disent « Ah ben, on va encore bien rire aujourd'hui ». Simplement parce que cette personne est rentrée et on sait très bien quel type de pensée elle mastique en permanence, oh, c'est super. Il y a des gens, soyons honnêtes, hein, quand on les voit arriver, on préférait soit nous être ailleurs, soit que la personne soit ailleurs. Et alors, mais ça on discutera peut-être une autre fois dans un autre contexte, mais vous êtes responsable de ce que vous dégagez. Hein. Vous ne pouvez pas à l'infini espérer que les autres vont vous soutenir, vont être là pour vous, si en permanence vous n'assumez pas votre responsabilité de changer. Hein. de façon de penser. Donc la parole de Dieu est la parole qui donne la vie et qui la soutient en l'alimentant en permanence. Je pense que nous savons tous quand même qu'il y a des paroles qui portent la mort en elles. Il y a des gens qui peuvent vous tuer d'une parole, en tout cas plomber les 6 prochains mois de votre vie par des paroles. Et plus cette personne est supposée vous aimer, plus cette parole va être terrible pour vous. Et puis il y a des paroles de vie qui donnent la vie à ceux qui les entendent. Ça, c'est entre autres une parole de vie. Donc ne pas se mettre à l'écoute de ce que Dieu dit, c'est se soustraire à la vie. Et conséquence pratique, c'est rester tout seul avec vos propres pensées, avec vous comme source d'alimentation de ce que vous pensez. Vous voulez que je vous fasse un dessin? C'est une catastrophe. Moi, si je reste seul avec mes pensées, mes amis, les murs vont tomber. Il faut forcément que une autre pensée que la mienne, une autre influence que la mienne, une autre source d'alimentation intervienne pour que les choses soient différentes. Donc, la parole de Dieu est là pour nous apprendre à vivre à partir d'une source qui va abreuver notre vie d'eau vive et claire. Donc, quelque chose de comestible qui va nous faire du bien, même dans les pires difficultés de notre vie. En réfléchissant à ça, j'ai déjà dit, il faudra peut-être que je fasse un message ou même plusieurs, rien que sur là-dessus, mais comme nous sommes des êtres humains, je pense que nous avons tous plus ou moins un problème. C'est que pour qu'on mette ça en pratique et que ça fonctionne, il y a une chose qui doit être claire dans notre tête et dans notre cœur, c'est que Dieu nous aime. Si vous doutez que Dieu vous aime, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera pas. C'est aussi bête que ça. Quand on prend le temps de réfléchir, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on fait le plus en général, tous les dons de Dieu sont assez extraordinaires. Alors on pense souvent aux dons spirituels, on a raison, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il est probable qu'un des plus grands dons que Dieu nous ait fait, et à tous les hommes et toutes les femmes de cette planète, c'est justement notre esprit. Je ne sais pas si vous savez, mais avant votre naissance, donc in utero, votre corps a produit plus de 200 milliards de neurones. Je sais bien que quand on réfléchit, on a un doute, Non, mais c'est avant la naissance. Apparemment, on en perd en route. Donc, c'est ce qui vous a permis de penser et de réagir pendant cette période de votre vie. Vous étiez tellement encombré par la surabondance de toutes ces richesses qu'au moment de votre naissance, au moment où vous êtes sorti du ventre maternel, vous aviez déjà tué environ 100 milliards de ces neurones. La moitié de ces neurones, vous avez bouffé. Mais après, elles ne vous manquent pas, bizarrement. C'était prévu comme ça. Entre le deuxième mois in utero et votre deuxième anniversaire, votre corps a produit 1,8 synapses par seconde sans que cela vous fatigue le moins du monde. Et vous, c'est beaucoup, Ce qui signifie qu'entre vos neurones, des milliards d'informations sont transmises à la seconde. À la seconde. Vos pensées ont un pouvoir énorme sur votre vie. Par exemple, des chercheurs ont prouvé que les joueurs de tennis peuvent améliorer leur revers simplement en s'entraînant à répéter le mouvement mentalement. Il ne faut même pas qu'ils soient sur le court. Il faut un certain niveau technique, mais une fois que c'est acquis, ils améliorent rien qu'en visualisant leur revers, ou leur coup droit, ou leur service. C'est le cas également des pilotes de Formule 1 qui mémorisent les tracés du circuit afin de pouvoir s'en souvenir mentalement pendant toute la course. C'est bien évident qu'en bout de ligne droite à 350 km/h, si vous freinez un quart de seconde trop tard, c'est dans le décor que vous finissez. Ils ne peuvent pas attendre en temps réel de visualiser l'endroit où ils vivent. C'est là qu'ils virent. Donc, c'est l'esprit, votre esprit, vos pensées qui modèlent votre cerveau, et pas l'inverse. En d'autres termes, lorsque vous pratiquez l'espérance, l'amour, la joie, etc., votre esprit recable littéralement votre cerveau. De nouvelles connexions se créent, connexions qui n'existaient pas avant. Parce que vous avez été fait à l'image de Dieu, vous avez la capacité de diriger votre puissance mentale de la concentré. Isabelle, pendant des années, a porté des lentilles de contact. Maintenant, elle ne peut plus parce que, enfin, soit, c'est pour ça qu'elle porte des lunettes. Alors moi, il y a un truc qui m'époustouflait toujours, c'est que de temps en temps, pas tous les jours, loin s'en faut, mais de temps en temps, il y a une des lentilles qui tombait par terre. Je ne sais pas si vous savez la complexité que ça représente de retrouver une lentille de contact quand elle tombe par terre, surtout si elle n'est pas aspirée depuis une semaine, par exemple. Ben, le plus incroyable, c'est qu'elle finissait toujours par retrouver sa lentille. Et la raison en est simple. C'est qu'en se concentrant sur le fait de retrouver sa lentille, tous les autres, dont les miettes, les cheveux, les couleurs du dallage, tout ça, ça disparaît, mes amis. C'est un peu comme vous faites renifler un t-shirt à un chien pisteur pour retrouver quelqu'un disparu. C'est exactement la chose. Il y a une concentration, vous ne vous rendez pas compte de ça, hein, qui vous permet de retrouver la chose perdue simplement parce que tout votre esprit et votre pensée se concentrent là-dessus. Et ça fait diminuer ou quasi disparaître tout ce qui n'est pas votre recherche. Donc tous les mantras qu'on se tape, « Oh, je suis nul, j'y arriverai pas, c'est pas possible, et bout », tout ça, il faut arrêter avec ça. Je ne dis pas que c'est facile. C'est comme dans tout dans la vie, c'est un entraînement. Mais dans ce cas spécifique, toutes les autres sources d'informations semblaient simplement ne plus être enregistrées par Isabelle. Notre problème, mes amis, je pense, et le mien, hein, je ne suis pas différent de vous, hein, c'est que la plupart d'entre nous pensent qu'elles sont les victimes de toutes leurs pensées parce que celles-ci s'encouffrent dans leur tête. Un peu comme si ces pensées, on était passif devant un écran de télé avec toutes nos pensées qui défilent et qu'on est là et qu'on supporte et qu'on n'y peut rien. Ce n'est pas vrai. Forcément, ce n'est pas vrai. Sans ça, les gens à Auschwitz, certains qui ont pardonné leur bourreau, ben c'est impossible. Certains seraient morts même, n'auraient même pas survécu, pas parce que les Allemands peut-être les auraient tués, mais simplement parce qu'ils auraient été détruits par leur propre relation à leurs circonstances, quoi. Mandela, il a passé 27 ans de sa vie en tôle. Et quand il est sorti, le premier truc qu'il a fait, il faut qu'on pardonne à nos persécuteurs. Vous croyez que ça sort de nulle part? Il a dû concentrer sa volonté sur le fait « je ne veux pas sombrer dans la haine de ceux qui me gardent et qui m'ont foutu 27 ans de ma vie en l'air ». Donc, il y a une bataille qui fait rage entre vous, votre nature et l'Esprit de Dieu, entre le malin, on va l'appeler comme ça, et Dieu en ce qui concerne vos pensées. Donc, la liberté ultime que vous possédez, la liberté que personne au monde ne peut vous enlever, même pas dans la pire des situations, c'est la liberté de décider ce à quoi votre esprit va s'attacher. Alors, à titre personnel, même si c'est parfois très difficile, parce que je ne voudrais vraiment pas que vous soyez un jour faire un tour dans mon esprit. Je veux régler mon esprit sur la présence et la bonté de Dieu dans ma vie, afin de pouvoir être dans la joie et être encore capable d'être là pour les autres malgré toutes les influences et les circonstances et l'hérédité et les perspectives éducatives qui ont été les miennes et qui sont les miennes. Alors, est-ce que c'est facile? Dans mon monde, à moi, certainement pas, hein, ça je vous garantis, que, mais vraiment pas. Hein. Et les seules raisons que je peux avoir encore de me réjouir sont en Dieu et rien qu'en Dieu. Si je cherche des raisons de me réjouir ailleurs, je vais être parfois heureux, mais je vais être souvent très malheureux. Pour de mauvaises raisons, hein. Mais je vais être malheureux. Alors est-ce que cette énergie mise, est-ce que ça suffit? Alors pas toujours. Parce que ma nature humaine m'a appris, comme à vous, à avoir besoin d'un nombre incalculable de choses pour prétendre être heureux. Mais je sais une chose, par la foi, c'est que Dieu suffit. Je ne vis pas toujours, ça vous l'avez remarqué, hein. Mais je sais, je suis convaincu qu'il suffit. Un homme passe acheter son journal tous les jours dans le même magasin, dans la même librairie, et tous les jours le libraire tire la tête, est désagréable et ne dit pas bonjour. Ça n'est pas quelque chose de personnel, mais ça pourrait l'être. Un jour, l'un des collègues de cet habitué l'accompagne et finit par lui demander « Comment fais-tu pour rester aussi gentil et souriant face à un type aussi désagréable ?» L'homme a répondu quelque chose de très simple et que je pense que nous devrions vraiment méditer en tant que chrétiens. Il a répondu « Pourquoi devrais-je laisser sa mauvaise humeur dicter mon attitude ?» tire la tête de son problème. Moi, quand je suis arrivé à Brun, pour vous dire que ce n'est pas facile, il y a des années quand même, j'ai remarqué que les commerçants, ils ont une fâcheuse tendance à tirer la gueule. Et je suis rentré 3 fois dans le même magasin en l'espace de 2 semaines, et le gars tirait la gueule sur une pâtisserie, je ne sais plus. Mais vraiment, comme ce que je viens de vous dire, ce n'est pas un livreur, là, je ne sais plus ce que c'était, mais peu importe, un commerçant, pas sympa du tout. Et plutôt que de dire, bon, ben, moi, son influence, son attitude ne va pas m'influencer, moi, j'ai dit au gars, excusez-moi, on vous a forcé à faire ce métier? Pardon, est-ce qu'on vous a forcé à faire ce métier? Ah non. Ben, apprends à sourire, alors, monsieur. Alors, j'étais très content de ma répartie en sortant, mais j'ai agi comme un imbécile. Parce que 100 mètres plus loin dans la rue, j'aurais dû foutre ma main dans sa gueule à ce con-là. Ouais. Le lendemain matin, ce mec vit encore, quoi. C'est pas normal. Mais ça se passe où tout ça? Là, hein? Rendez compte? Sur une journée de 24 heures, des gens pas sympas, des gens ceci, des gens. C'est invraisemblable le nombre de possibilités que vous allez avoir de passer à côté de ce que Dieu veut. Hein? Vous allez dans un restaurant, un autre exemple, classique. Et le serveur vous accueille et il n'est pas très sympa, non plus. Il n'a pas de chance, c'est une sale semaine. Je me rappelle d'une chef de rang dans le sud de la France. Là aussi, j'aurais pas. Désolé, mais honnêtement, quand j'ai vu sa tête, je disais, elle a perdu sa mère, son père, son chien et son chat le même jour. Quoi. C'est pour tirer une tête pareille. Pas du tout. L'année d'après, elle était toujours avec la même tête. Et là, il faut prier pour cette fille. Quoi. C'est pas possible d'avoir une tête pareille. Donc, vous allez au restaurant et la personne qui vous accueille, le serveur, n'a vraiment pas une tête sympa. Il n'est pas sympa du tout. Il est même plutôt désagréable. Mais là, encore une fois, plusieurs possibilités vont s'offrir à moi. C'est toujours la même chose. Il y a des choix dans la vie. En fait, il n'y a que des choix. Je ne remarque même pas. Je le nie, comme disaient les gens. C'est comme il n'existait pas. Il est une sorte de parasite sur mon écran de contrôle. Pauvre type va. Hop, et je décide de même pas faire attention à lui. Ou alors je lui fais la remarque, comme tout à l'heure. Ça n'est pas sourire. Si dans mon assiette, ça va la même chose que sur ta tronche, ça va pas être terrible, bouffe ici. Bah, par exemple, ouais, ça me vient assez naturellement, moi. J'ai des années d'expérience dans le domaine. Si j'agis comme ça, il y a une chose qui va certainement se passer, c'est que je vais être de mauvaise humeur, donc ça ne va rien arranger, et le repas va pas être très sympa. Ou bien une autre option. La bonne option. Je me dis que c'est probablement un père de famille, probablement, j'en sais rien, qui fait ce boulot pour subvenir aux besoins de sa famille afin de payer les études de ses enfants. Je me dis que ça doit le peser de n'être quasi jamais à la maison, parce que c'est un boulot difficile, la restauration, qu'il y pense peut-être en ce moment-ci et qu'il se peut justement, qui sait, qu'un de ses enfants soit malade. Je n'en suis pas sûr de tout ça, mais c'est possible. C'est une possibilité. Et lorsque je m'assois à table, je le regarde dans les yeux et je lui dis merci en souriant, tout en faisant une prière intérieure pour lui, sa famille, pour que Dieu le bénisse et entre dans sa vie. Béni sois-tu, jeune serveur. Ouais. Ce qui veut dire en clair que très souvent, et qu'on soit chrétien, ça ne change rien, ça devrait. On a la capacité pour nous que ça change. On a autre chose que nous-mêmes en nous. Ce qui est terriblement vrai, je dis terriblement expressément, c'est que nos émotions peuvent nous mener sur un sentier de destruction. D'abord de nous-mêmes. Mais nous ne devons jamais oublier que l'Esprit de Dieu offre toujours un autre chemin. En tant que pasteur, mes amis, moi j'ai déjà entendu des trucs de toutes les couleurs. Je n'ai pas dit de l'arc-en-ciel parce que c'est plutôt dans les gris et les noirs, en règle générale, mais soit. C'est une forme d'arc-en-ciel, une sorte d'arc-en-ciel diabolique, de négation d'arc-en-ciel. C'est pas les souffrances ou les bêtises qui me posent le plus de problèmes. C'est ce que parfois les gens peuvent dire sans se rendre compte de l'inanité de ce qu'ils sont en train de dire. Un exemple. Une femme m'a dit un jour, j'aime cet homme, il est marié, je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'en empêcher, je ne suis pas responsable. Alors là, en tant que pasteur, je suis un bon pasteur, un bon berger, premier niveau à mon niveau, c'est éviter de la prendre par le collet et lui foutre une paire de claques. Ça, c'est le premier truc, ça je ne peux pas faire. En fait, si elle peut ne pas aller plus loin, bien sûr qu'elle peut. Elle peut prier et demander l'aide de Dieu pour l'aider, entre guillemets, à reprogrammer son cœur, repasser en permanence dans sa tête, avec l'aide de Dieu, que ça n'est pas une option, ça ne peut pas l'être. Et puis pratiquement, elle pourrait passer du temps avec des femmes qui ont perdu leur mari suite à son infidélité. Ça pourrait être sympa, ça, pour avoir l'impact sur la femme en question. Elle peut écouter leurs histoires, elle peut plonger son regard dans celui des enfants qui n'ont plus leur père, ou plus assez souvent, les écouter leur dire le prix que coûte une infidélité. Percevoir la promesse brisée dans les yeux des enfants. Ou plus simplement, parce que c'est peut-être moins impliquant, vous pouvez en discuter, la personne aurait pu en discuter avec un pasteur ou un conseiller conjugal qui ont de l'expérience dans les incroyables conséquences que vivent les enfants des familles recomposées. Vous faites tout ça, la personne aurait fait ça en faisant confiance à Dieu. Il y en a peut-être un autre responsable ou d'autres responsables d'église, votre état d'esprit va changer, mes amis. Ça, je vous le garantis. Sous la conduite de l'esprit, nos sentiments changent. Donc, à tout moment, vous pouvez tourner votre esprit vers Dieu. Il n'y a pas un seul moment où il n'est pas disponible. Ça n'existe pas. Jamais il ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121. Je savais que vous savez. Dont l'esprit est là en permanence, désirant une chose, c'est renouveler votre esprit à chaque instant. Un peu comme s'il existait une chaîne câblée portant le nom de Holy Spirit Channel. Holy Ghost Channel. Donc je peux me brancher sur ce canal-là quand je veux. Je peux lui demander de guider mes pensées, je peux faire une pause et écouter, et je peux me battre pour sortir de ce cercle infernal. Il y a quelques années, quinzaine d'années en fait, Joshua Bell a participé à une expérience. Joshua Bell, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le grand spécialiste en musique classique, c'est probablement le plus grand violoniste actuel. Personne ne le connaît forcément, parce que nous, la musique classique, on n'en a rien à battre. C'est à vous, moi ça va encore. Hein. Mais c'est vrai. L'expérience, en quoi consistait l'expérience? Ben, comme le montre un peu cette photo, cette image, il a joué sur son Stradivarius de 1773. Il a intérêt à l'assurer, celui-là. Dans le métro de New York. Il a joué les 6 plus beaux morceaux de son répertoire, les 6 morceaux qu'il préfère et qu'il maîtrise le plus, parce que vous n'avez pas de partition. Hein. Donc, la plus belle musique classique jouée par l'un des plus grands musiciens sur l'un des plus fabuleux instruments. Dans le métro de New York, aux heures de pointe. À la grande surprise des chercheurs, à quelques exceptions près, comme cette femme, personne ne s'est arrêté pour écouter. Tout le monde regardait ses godasses et traçait. Des milliers et des milliers de personnes perdues dans leurs pensées se sont fermées à cette musique. Est-ce qu'ils auraient pu s'ouvrir? Bien entendu. Il fallait décider de le faire. Je terminerai en disant ça, et j'aimerais bien que vous gambergiez là-dessus, une de vos pensées. Ce n'est pas la parole de Jésus qu'on connaît le mieux et qu'on mémorise le plus, et pourtant, je tire en tout cas cet extrait-là de l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 32. Voilà ce que dit Jésus. « À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui ?» Il disait ça à son époque, c'est valable aujourd'hui aussi. « Ils ressemblent à des enfants assis sur les places publiques dont les uns crient aux autres. Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. » Rien à foutre, dit Jésus, de ce que je dis, quoi. Vous n'en avez rien à faire. Le maître continue de jouer, mais l'écouter est toujours, toujours une option et un choix de notre liberté. Ça ne devrait plus l'être. Nous devrions être convaincus que c'est le chemin. Forcément. Ça ne devrait plus être une option d'écouter Jésus. Et pourtant, ça le demeure encore trop souvent. Et je terminerai vraiment en vous laissant cette petite phrase que Jésus, par laquelle Jésus terminait souvent ses enseignements, que ceux qui ont des oreilles, apparemment ça va, hein, ce côté-là, tout le monde en a, que ceux qui ont des oreilles, le grec est plus précis, que ceux qui ont des conduits auriculaires, donc pas simplement l'excroissance de matière,
mais le conduit,
que ceux qui ont un conduit auriculaire pour entendre, entendent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.